Une entrée en clôture, rose au poing. C'était le 1er octobre 1989, fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mes parents m'avaient accompagné, et dans la voiture, l'atmosphère était pesante, malgré le ciel d'un bleu resplendissant, le goudron qui scintillait, et la verdure du paysage qui semblait d'une intensité anormale. Ce qui les aidait à supporter cette épreuve déchirante était l'illusion de mon retour rapide quand mon caprice monastique serait terminé. Je me gardais donc bien de les détromper. Pour ma part, j'éprouvais un sentiment de libération qui me donnait des ailes, une paix incroyable et une joie grandissante mêlée à la tristesse de l'incompréhension des miens et de la souffrance que je leur infligeais. Mais Jésus n'avait-il pas enseigné « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi » ? N'avait-il pas donné l'exemple d'un don de soi si plaignier qu'il sacrifiait les joies tranquilles et la sécurité d'une vie de famille ? C'était l'époque où n'existait pas encore la possibilité d'effectuer un séjour pour 3 mois, continu ou discontinu, comme regardante en clôture. Quand on entrait au Carmel à cette époque, on découvrait tout à la fois. La partie du monastère cachée aux profanes, cette fameuse clôture, et la personnalité des sœurs qui nous étaient octroyées. C'était à ce titre l'inconnu. Je ne m'étais entretenu jusqu'alors qu'avec la mère prieure, la maîtresse des novices et les sœurs externes préposées à l'accueil du monastère. Sans doute, j'avais dû probablement rencontrer, lors de parloirs collectifs, l'ensemble de la communauté et les novices. Mais c'était quand même sommaire. Ce 1er octobre, les vêpres de Sainte Thérèse et le salut du Saint-Sacrement s'étaient achevés par une bénédiction de rose et j'en reçus une. Nous nous sommes alors dirigés, mes parents et moi, vers la porte de clôture. La porte ogivale joliment cloutée semblait pour moi le portail lumineux du paradis perdu, tandis que, pour mon père notamment, des formations professionnelles obligent, elle était vue comme une porte de prison, derrière laquelle son innocente fille allait se trouver derrière les barreaux. Chacun interprète la réalité en fonction de ses paradigmes. Bruit de serrure, mains invisibles qui s'activent, j'entrais, tenant ma rose bénie, dans un cloître gothique flamboyant où une procession de moniales aux voiles baissées m'attendait. La mère prieure me présenta un crucifix à baiser, puis, la porte refermée sur le mystère du cloître, chaque sœur me donna l'accolade et me souhaita la bienvenue avec un visage resplendissant de joie. La porte de clôture était désormais fermée derrière moi et mon passé. Sainte Thérèse d'Avila a bien raison de dire qu'il faut avoir vécu ce moment pour en parler. Il est vrai que cette expérience s'apparentait à la mort, où l'on franchit toujours seul le seuil mystérieux et décisif en laissant nos proches en larmes. J'avais ressenti aussi bien une émotion violente qu'une paix extraordinaire qui me rappelait le tout est accompli du Seigneur et même une joie comparable à celle de Myriam, la sœur de Moïse, quand elle avait saisi son tambourin après le passage de la mer Rouge. On me conduisit à ma cellule, et je me suis revêtu du costume de postulante locale. Une blouse café au lait, serrée par une ceinture, et un fichu couleur chocolat noir noué sur la nuque. Au parloir, j'eus encore l'occasion de me montrer à mes parents et de les saluer, puis ils partirent. Le 29 septembre 1990, fête des saints archanges, presque un an plus tard, je devais prendre l'habit religieux au sens strict et le voile blanc pour la première fois. Puisque, comme je l'ai souligné dans l'introduction de cet ouvrage, j'allais me révéler une multirécidiviste en la matière. À chacune des étapes de mon intégration, je devais écrire une lettre de motivation au chapitre afin que la communauté vote pour ou contre ma candidature. Le vote étant secret, je n'ai jamais su, contrairement aux hommes politiques, à quelle majorité j'étais admise. La prise d'habit religieux ouvrait la porte à 2 ans de noviciat qui précédaient la profession temporaire. À mon entrée, celle-ci se faisait en bloc pour 3 ans, puis plus tard, le chapitre décida de morceler le bloc monolithique des vœux temporaires en 3 années distinctes où chaque fois une nouvelle lettre de motivation devait être rédigée. Dans le meilleur des cas, une moniale pouvait émettre ses vœux solennels et perpétuels au bout de 6 ans de présence dans la communauté. Pour les sœurs externes, affectées à l'accueil et aux services extérieurs du monastère, il fallait patienter pas moins de 9 ans avant la profession perpétuelle à cause de leur situation plus exposée. Les vœux monastiques que les carmélites prononçaient étaient de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Contrairement à l'opinion de beaucoup, aucun vœu de silence n'était prévu, pas plus qu'un vœu de charité, ceci ne dispensant pas d'ailleurs de tendre à en observer les exigences.